rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Don Paul Vanier, le fondateur de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, un moine français qui est venu ici en 1912 et qui, à travers des problèmes épouvantables, en est arrivé à fonder cet immense monastère aujourd'hui que la plupart d'entre vous, j'espère, connaissez, à tout le moins par des photos, par des disques, par sa réputation et son rayonnement spirituel immense. Don Paul Vanier, c'est donc ce fondateur, ce premier supérieur de Saint-Benoît-du-Lac. Il était prophète de Solesmes, prophète de l'abbaye de Solesmes, et il était agrégé par la suite à la restauration d'un monastère, Saint-Maur de Glanfeuil en Anjou, et ce monastère a dû, avec ses moines, lors des persécutions religieuses, se rendre en Belgique d'abord, puis finalement à Clairvaux. Comme vous voyez, il a subi bien des difficultés dans sa vie, et le monastère de Clairvaux au Luxembourg demeure toujours là. C'est un monastère important qui est là depuis la fin du siècle dernier. Il remplit dans cette abbaye de Clairvaux les fonctions d'économe, si vous voulez, de cellerier, c'est comme ça qu'on appelle ça, et de sous-prieur. C'est un homme qui déjà fait sa marque comme administrateur et comme saint-moine. Il a une droiture. C'est un homme droit, un homme vrai. Il était réputé pour ça, et sa piété aussi, et son esprit de foi, qui sont remarquables, paraît-il. Il avait ce qui fait souvent la grande qualité des meilleurs moines, le souci de l'observance régulière. Ça peut sembler inutile, mais cette rigueur dans l'observance de la loi, de la règle, puis le zèle qu'il a pour l'office divin, c'est-à-dire pour répondre à cette cloche qui appelle les moines au cœur pour rendre gloire à Dieu, eh bien, il aimait ça. Il était fidèle, puis il cultivait les chants bénédictins, le chant grégorien, hein? Et tout ça ensemble, quand on y pense, ça fait un vrai bénédictin. Il était ardent au travail et d'une loyauté indéfectible, Don Paul Vanier, V-A-2-N-I-E-R. Il y a deux N, c'est particulier. Hein? Et Don Vanier, bien, il attire sur lui, étant donné toutes ses qualités, les tâches, les responsabilités les plus difficiles. Et là, il est prêté justement à l'abbaye de Saint-Vendry, qui est l'abbaye fondatrice de Saint-Benoît-du-Lac. Saint-Vendry, ou Fontenelle, comme on appelle souvent cette très ancienne abbaye, en Normandie, qui cherche donc à s'établir au Québec. Et c'est lui qui est envoyé dans ce pays lointain, c'était très loin à l'époque, en 1912. Il est envoyé par Don Joseph Potier, dont on va nous parler mercredi midi à midi et demi, et dimanche à midi et demi prochain, là, Jean-Pierre Noisieux, qui choisit la musique de cette émission. Des émissions que je vous recommande sur Don Joseph Potier. Admirables émissions, mercredi midi à midi et demi, et dimanche midi à midi et demi. Une série admirablement bien réalisée et bien faite sur ce grand spécialiste du chant grégorien qui était Don Joseph Potier. Donc, il est envoyé par Don Joseph Potier pour y fonder ce monastère, qui est Saint-Benoît-du-Lac, et qui pourra pour la suite, si le Seigneur veut bien aider, car tout se fait par Dieu au fond, si Dieu veut bien que le monastère prenne des proportions qu'il a prises aujourd'hui. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs, comme chacun sait, Saint-Benoît-du-Lac est connu à travers le monde, hein? C'est un centre spirituel exceptionnel pour notre pays. L'histoire de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac commence donc en 1912. C'est le 4 juillet de cette année que Don Paul Vanier débarque à Montréal. Oui, d'un bateau, il débarque, il avait traversé en bateau, avec le mandat de fonder un monastère bénédictin. Le 4 décembre de cette même année, dans une maison et sur une propriété des cantons de l'Est, un petit monastère. La maison existait encore il y a quelques années. Le monastère est officiellement inauguré. C'était la maison qui servait aux frères qui étaient portiers du monastère. Et c'est là qu'on s'inscrivait, c'est là qu'on arrivait. Quand on allait là, moi j'y suis allé dès 1938 et je n'ai pas cessé depuis ce temps-là. Ça fait 60 ans que je vais dans ce monastère que j'aime beaucoup. Alors c'est officiellement inauguré, Saint-Benoît-du-Lac est né comme ça dans une petite maison de campagne. Et la chronique est abondante, la correspondance aussi de Don Vanier est abondante. Il tenait un journal, c'est très intéressant, ça nous permet de lire ce qu'il pensait, ce qu'il faisait. Et sa correspondance, tout particulièrement avec Don Joseph Potier de l'abbaye Saint-Vendry et Don Paul Picard, tous les deux étaient abbés et prieurs de Saint-Vendry, de l'abbaye Saint-Vendry. Alors ça fournit une documentation de premier ordre sur la période des débuts. Puis ça nous renseigne aussi, quasi jour par jour, sur les démarches, les rencontres, les décisions qui vont conduire à la fondation. Puis ça permet aussi de comprendre la personnalité de cet homme admirable qui est Don Vanier. Et progressivement, comment aussi il s'est inséré dans ce milieu tout nouveau pour lui qu'est le Québec de 1912. Don Vanier a fait la traversée Le Havre-Montréal, donc du 23 juin au 4 juillet. Une durée inhabituelle de cette traversée, ça s'explique en particulier par le brouillard. Puis, écoutez bien ça, c'est fascinant, les icebergs qui obligent le navire à avancer lentement, de crainte de les frapper, puis de descendre au fond de l'océan comme le Titanic. Alors, il s'immobilise même au large de Terre-Neuve pour de longues heures. Et il écrit dans son journal « Nous apercevons des icebergs au nord et au sud. L'un de ces blocs de glace avait certainement plusieurs kilomètres de long. Nous faisons des détours pour ne pas le heurter. » Alors évidemment que la vue de ces icebergs a inspiré énormément d'anxiété à l'équipage puis aux passagers. Pourquoi? On le conçoit sans peine, précisément dans ces parages, parce que moins de 3 mois auparavant, dans la nuit du 14 au 15 avril, c'est juste avant, le Titanic, considéré pourtant comme insubmersible, a sombré avec 1513 de ses passagers. Cette tragédie avait un retentissement énorme à l'époque. Et puis, ça va longtemps hanter les imaginations, d'ailleurs jusqu'à nos jours. On est encore peut-être plus hanté aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 10 ans. C'est devenu presque une mode, Et dès le 12 juillet 1912, donc, Don Paul Vanier se hâte d'aller rencontrer l'évêque de Sherbrooke, Monseigneur Paul Larocque, qui a accepté une fondation bénédictine dans son diocèse. Cet évêque s'est montré très accueillant. Il écrit lui-même, Don Vanier, il écrit « Monseigneur s'est montré très bon et m'a fait le meilleur accueil ». Il est chanceux, il est bien tombé. Et il rapporte en quels termes chaleureux cet évêque merveilleux. Il lui ouvre toutes grandes les portes, même de son évêché. Il dit « Restez donc ici, mon père. Tant que vous voudrez, vous êtes chez vous. Et nous vous garderons 1 an, 2 ans, tout le temps que vous voudrez. » Bon évêque. Et le lendemain, à l'invitation de l'évêque, donc, dont Paul Vanier assiste à la vêture des 8 premiers novices québécoises des filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus. Cette communauté est bien connue du fondateur. Je la mentionne parce qu'ils ont beaucoup aidé Saint-Benoît-du-Lac, ces sœurs-là. Avant son départ de France, il a tenu à rencontrer la supérieure générale là-bas et il avait obtenu un don de 200 francs pour son projet canadien. Ces religieuses au Québec vont continuer à offrir au fondateur et à sa fondation des sommes d'argent de temps en temps. L'argent venait même de France. Le 14 juillet, un dimanche, Don Vanier, à la demande de l'évêque, Mgr Larocque, chante la grand-messe à la cathédrale de Sherbrooke. Une semaine plus tard, il y prêche devant 1 millier de fidèles et tout le monde est intéressé par ce moine bénédictin, c'est tout nouveau. Et lorsqu'il fait l'acquisition de la propriété La Chapelle, non seulement il est... c'est une propriété qui appartenait à un monsieur La Chapelle... Bien, non seulement il est encouragé par Mgr Larocque, mais il en reçoit un prêt qui lui permet de verser le premier paiement. Il dit, il écrit dans son journal, « J'ai payé de suite 6 000 piastres. » On disait ça, des piastres, dans le temps, des dollars. « J'ai payé de suite 6 000 piastres, la moitié du prix que Mgr m'a proposé de m'avancer avec intérêt 5%. » Il faudrait mentionner ici que le 4 mai 1912, était décédée à Sherbrooke, Mère Marie-Léonie Paradis. Je vous en ai déjà parlé. fondatrice de la congrégation des petites sœurs de la Sainte Famille. Il y avait ce beau film hier à la télévision sur les sœurs du bon Dieu, là, ce film admirable tourné il y a 20 ans par l'Office national du film sur les petites sœurs de la Sainte Famille. On ne peut douter que Don Vanier en ait souvent entendu parler. Hein. Le monde ecclésiastique et la voix populaire la tenaient, Mère Marie-Léonie Paradis, pour une sainte. Et l'Église, on le sait, va confirmer ce jugement, la béatifier en 1984. Hein. Or, à la mort de Mère Marie-Léonie, sa jeune congrégation comptait déjà 448 professes et 187 novices et postulantes. Ce sont des sœurs qui rendent service au clergé. Dans l'humilité, la simplicité et un sens de l'Évangile absolument extraordinaire. Et ces simples chiffres que je vous donne là, sur le nombre des sœurs, ça témoigne à leur façon de la qualité extraordinaire des vocations qu'il y avait à l'époque. Et ça, ça enthousiasme Don Paul Vanier, ça le met en confiance. Et il est plein d'encouragement, très encouragé. Alors, c'est à l'époque aussi où le frère André est déjà beaucoup plus connu. Là, on se met à parler de lui. Deux mois après son arrivée, le 4 septembre, Don Paul Vanier lui écrit au frère André une lettre qui n'a malheureusement été perdue. Mais le 28 décembre, il écrit à Don Potier que l'un de ses premiers postulants canadiens, Louis Francoeur, qui va devenir un grand journaliste, qui restera pas malheureusement, fait son cours classique dans un collège où un certain frère André fait des miracles et fait courir une partie de Montréal et des alentours à l'oratoire Saint-Joseph qu'il a fait construire. Voyez-vous comme quoi déjà les nouvelles se répandaient en France au sujet du frère André. Au terme de l'année 1912, Don Vanier fait sa chronique par ces lignes qui lui sont un précieux réconfort. Il écrit « À la réception de ses prêtres le 31 décembre, Monseigneur l'évêque de Sherbrooke a dit à ses prêtres qu'une des plus grandes joies de cette année et de son épiscopat, bien ça avait été de recevoir dans son diocèse les bénédictins de la congrégation de Solem. Cet accueil chaleureux de Monseigneur Larocque ne peut évidemment que rassurer Don Paul Vanier, puis l'inciter à poursuivre son œuvre avec confiance et en dépit de tous les problèmes qu'il aura affrontés. Je vous raconte ça dans les trois prochains quarts d'heure. C'est une vie extraordinaire de voir qu'est-ce que ça prend pour fonder un monastère. Ce sont des héros. On devrait vénérer Don Paul Vanier partout au Québec. Dans le temps où est arrivé Don Paul Vanier, 1912, dans les cantons de l'Est, là, après Sherbrooke, la ville la plus importante du diocèse, était Magog. Magog, il y avait 5000 habitants, dont 3500 catholiques. En 1912, l'abbé François-Xavier Brassard en est le curé depuis 4 ans. Et très tôt, Don Paul Vanier lie avec lui une amitié. « Monsieur le curé, écrit-il, est déjà un ami pour moi. » Il écrit ça dès le 20 juillet, il vient d'arriver. Dans sa correspondance, il ne parle de Monsieur le curé Brassard qu'en termes élogieux. Il écrit « Il est fort aimable, bon et simple, sincèrement dévoué. C'est un homme franc, loyal, tout dévoué. Nous avons dans ce prêtre un aimable et charitable voisin. » Alors, ces deux hommes sont donc bien faits pour s'entendre. Puis depuis, c'est assez étonnant, il y a l'âge, ils ont le même âge, 52 ans, puis ils se ressemblent beaucoup physiquement. Ça les rapproche. Don Vanier écrit, « Il est de mon âge, 52 ans, et il me ressemble si fort que beaucoup de gens me prennent pour son frère. » Alors, c'est avec le curé Brassard que Don Vanier fait sa première excursion du côté de la Fondation. Il ne peut trouver un guide mieux informé. Le curé Brassard, Monsieur Brassard, écrit-il, connaît à fond le pays, les terrains, les familles. Ça ne peut qu'aider Don Vanier, ça. Et cette connaissance, bien, le curé Brassard la doit au fait qu'il a exercé le ministère sacerdotal sur ces lieux, probablement comme curé de Saint-Étienne de Bolton, de 1887 à 1895 et écrit Don Vanier, et souvent il a dit la messe dans notre future maison avant Monsieur Lachapelle. Cette dernière précision n'est pas superflue parce que Monsieur Lachapelle, c'est un Québécois un peu surprenant parce que c'est un homme qui a rejeté la foi catholique puis qui est devenu protestant. Or, de son temps, la messe sous son toit n'aurait certainement pas été possible. Il revient donc à M. Brassard d'avoir signalé à Don Vanier la propriété Lachapelle, puis d'en avoir fait valoir les avantages pour y fonder un monastère. Et Don Vanier s'en convainc lui-même rapidement, puis il écarte tous les autres emplacements qui lui seront proposés par la suite. Or, le choix est presque providentiel. Moi, je trouve ça providentiel. Et définitivement fixé, le fondateur, encore trop peu au courant là, des procédures légales du Canada, mais demande au curé Brassard de prendre l'affaire en main puis de conduire les négociations jusqu'à la signature du contrat d'achat. Et pendant des mois, de juillet à novembre, le curé Brassard héberge dans son presbytère à Magog ce compagnon bien français qui est Don Vanier, le frère Raphaël Pélissier, puis il lui procure du travail. Il rend les mêmes services au frère Charles Collot, qui vient de Paris, qui est arrivé de France le 30 septembre. Le 18 novembre, alors qu'il fait le bilan de ses 5 premiers mois passés au Canada, dont Paul Vanier rend ce témoignage reconnaissant, ce grand prêtre, ce curé, M. Brassard, il dit « Je puis dire que c'est surtout par lui que j'ai fait tout ce qui s'est fait jusqu'ici. Il a été pour moi le meilleur conseiller. » Et alors, monsieur le curé Brassard va survivre 19 ans à son ami Don Vanier, sans que jamais il ne cesse de s'intéresser puis de se dévouer pour la fondation Saint-Benoît-du-Lac. À plusieurs reprises, Don Vanier fait part à ses correspondants en France de ses observations sur le français tel qu'on le parle au Québec. Je vous cite, c'est amusant. Vous retrouvez chez eux les expressions de nos campagnes françaises de Normandie, de l'Ouest, avec des accents qui nous font sourire. C'était là, je crois, la vieille prononciation des provinces de France dont nous nous sommes corrigés. Ce français lourd et vieilli, prononcé avec un accent campagnard, eh bien, il s'étonne de le retrouver même chez les prêtres. Pour l'édification de ses correspondants, il en transcrit un certain nombre d'exemples qui lui paraissent typiques. Mais que le français écrit et parlé est grandement laissé à désirer à ses oreilles, le fait n'est pas contestable. L'élite canadienne française était la première d'ailleurs à le constater à l'époque. On essayait de réformer ça déjà. Hein? On appelait ça le bon parler français. Et il déplorait certaines exagérations dans nos façons de parler. Et loin d'en prendre son parti, notre élite, ou enfin nos professeurs, et une partie de notre clergé d'ailleurs, mettaient tout en œuvre pour redresser la situation. Je me souviens d'une réflexion d'un Français, il y a à peu près 25-30 ans, un Dominicain très connu, qui nous disait « Les personnes qui parlent le mieux français au Québec sont les religieuses ». Quelques jours avant l'arrivée de Don Vanier, du 24 au 30 juin, s'était tenu à Québec le premier congrès de la langue française et des délégations de francophones sont venues des quatre coins de l'Amérique du Nord et aussi de France pour faire le point sur l'état du français et pour raviver leur détermination à le conserver et à en améliorer la qualité. Et en cette même année, 1912, Don Vanier était frappé par l'affaire des écoles du Kewatin, qui avait atteint sa phase aiguë, ça soulève l'opinion publique au Québec, et c'était la persécution des Canadiens français. Les clercs, les prêtres et les laïcs conjuguent leurs efforts, ici surtout au Québec, pour empêcher que les écoles franco-catholiques n'y soient supprimées par une majorité anglo-protestante raciste et intolérante. Hein. C'est une histoire épouvantable dont mon père nous entretenait souvent. Et j'en ai vécu des échos de tout ça dans les années 30, où on donnait à l'école nos sous pour défendre les écoles françaises d'Ontario qui étaient fermées par les autorités. Peine perdue, d'ailleurs, la majorité à l'encontre de tout droit a imposé sa volonté là-bas et le Don Vanier en était terrifié. La majorité interdit purement et simplement l'enseignement du français, comme elle l'a fait au Manitoba et en Ontario, n'est-ce pas, auparavant, dans le but de supprimer le peuple canadien français. Et Don Vanier est encore trop fraîchement débarqué d'Europe pour saisir toutes les composantes historiques de la question du français au Québec et au Canada, mais il est ému par tout ça. On peut penser que mieux informé, il se serait moins étonné des archaïsmes et puis de la pauvreté de notre langue auquel il a peine à s'habituer, il faut dire au début, mais il s'habitue quand même. Les Français, en général, ça leur prend 2 ans, puis ils comprennent tout, hein, puis ils peuvent même imiter parfois notre accent et notre vocabulaire simple. Et puis, il aurait pu s'étonner, en tous les cas, mais il ne l'a pas écrit, de la survivance sur un continent quasi totalement anglophone, fortement anti-français puis anti-québécois, la survivance de cette langue, de cette belle langue française, qu'il faudrait toujours parler de mieux en mieux. Et certaines situations déconcertent Don Vanier tout à fait. Il cite le cas suivant. Hyacinthe, le pays est plus catholique, avec la ville de Québec, où il n'y a qu'une poignée de protestants, a pour maire un protestant, et pour député un franc-maçon, élu par la masse catholique. Il dit, je ne comprends guère tout cela. Ah, c'est vrai que c'est une situation incompréhensible pour Don Vanier, parce que c'est le franc-maçon Thédée Bouchard, qui est anticlérical de surcroît, qui succède comme député à Henri Bourassa, qui était un catholique militant. Et on peut supposer que Don Vanier, dès que l'occasion s'en présente, demande à son ami de Saint-Hyacinthe, l'abbé Joseph Laferrière, de le tirer des questions qu'il se pose. Or, à la fin de 1912, l'objectif de Don Vanier est donc atteint. Il a un domaine de 450 acres qui a été acheté, puis dans la maison du fermier devenu monastère, la vie régulière débute le 20 septembre. C'est un anniversaire, le 20 septembre 1912. Ça s'est fait assez vite, finalement. Le personnel monastique comprend, outre Don Vanier, 3 postulants convers, le frère Raphaël Pélissier, le frère Charles Collot de Paris, puis le frère Louis Prévost. Ce dernier, c'est un jeune Canadien de la patrie. La tâche qui reste sur les épaules du fondateur est écrasante. Il faut restaurer une maison qui est loin d'être en aussi bon état qu'il l'a d'abord cru. Il y a l'exploitation d'une ferme qui va, par manque d'expérience, entraîner des déboires épouvantables. Il y a le paiement d'une dette de 12 000 $. À l'époque, c'est une somme énorme, alors que les revenus sont à peu près nuls. Il faut recruter des vocations, faut créer une paroisse pour les catholiques disséminés dans les environs et qui sont très peu fervents dans l'ensemble. Aujourd'hui, il est question d'un des personnages qui a le plus marqué, on peut dire, le Québec du 20e siècle, dont Paul Vanier, malheureusement inconnu, fondateur de Saint-Benoît-du-Lac. Saint-Benoît-du-Lac est un rayonnement spirituel, mystique, et qui permet à des milliers de gens depuis déjà très longtemps, depuis le début du siècle, de vraiment connaître ce que c'est que la très sainte liturgie de l'Église catholique, qui est une prière qui permet à l'âme de s'élever et de se jeter contre le cœur de Dieu notre Père, en union avec son Fils, le Christ notre Seigneur, dans l'unité de l'Esprit Saint. C'est la spiritualité fondamentale des bénédictins, qui est une spiritualité basée sur la foi fondamentale de l'Église qui s'exprime dans la très sainte liturgie, qu'ils ont commencé à célébrer. Ils ont célébré le nouvel an hier, le premier dimanche de l'Avent. C'est le nouvel an pour eux. L'année liturgique, c'est la base de toute leur vie. Or, c'est au milieu de tous ces soucis dont je viens de vous parler tout à l'heure, avant la pause, qu'on s'apprête à célébrer le premier Noël à Saint-Benoît-du-Lac. Et le 24 décembre 1912, tous s'affairent à aménager l'oratoire, puis à l'orner. C'est tout petit, tout petit. Par bonheur, le tabernacle commandé chez Desmarais et Robitaille de Montréal arrive dans la matinée. Et à minuit, commence la messe. Une messe basse, faute de chantre, on est trop peu nombreux pour ne pas de chantre. Il y a 20 personnes qui y assistent, c'est tout. Puis il y en a 14 qui communient. C'est le début de ces grandes fêtes de Saint-Benoît-du-Lac qui aujourd'hui remplissent cette immense église abbatiale qui a été construite il y a quelques années à peine, où il faut presque réserver pour trouver une place, tellement il y a du monde, ça vient de partout, tellement c'est beau. À 00:40 dans cette nuit Noël 1912, note Don Vanier dans sa chronique, « Je fais la consécration et l'enfant Jésus descend dans ce Bethléem nouveau pour y résider. » C'est un peu comme la grotte de Bethléem. Il écrit « Je le remercie de bien vouloir consoler par sa présence au milieu de nous le côté pénible de notre situation. » Ça n'est pas facile. C'est un problème. Or, la fragilité, puis le sort habituel de toute fondation monastique, pour s'implanter puis se développer, eh bien, ça requiert le soutien efficace de la maison fondatrice, Saint-Vendry, dans l'occurrence. Et sur place, ça demande un personnel suffisant, nombreux et pourvu de des moyens financiers qui sont nécessaires pour tout ça. Et en regard de ces choses que je vous mentionne, eh bien, la Fondation Saint-Benoît-du-Lac a été très, très désavantagée. C'est le seul monastère bénédictin au Canada francophone à ce moment-là. Il est séparé de Saint-Vendry, l'abbaye-mère, par plus de 6000 kilomètres et davantage. Saint-Benoît-du-Lac est voué à un isolement qui ne peut que lui être vraiment préjudiciable. Et de plus, le personnel fondateur s'élimite à un seul moine prêtre. Un seul moine prêtre. Ce pauvre Don Paul Vanier qui est là, seul avec ses frères. Il y a trois aspirants comme frères convers, comme on disait dans le temps, des frères qui aujourd'hui sont vêtus comme les autres moines et ont leur place au chœur avec les moines de chœur aujourd'hui, depuis le concile. Quant au, dans ce temps-là, ils étaient vêtus de brun, et les moines de cœur vêtus de noir. Quant aux ressources financières, les quelques 6 000 ou 7 000 $ investis dans cette entreprise, c'était une somme plus ronde qu'aujourd'hui, plus importante qu'aujourd'hui, il faut bien considérer les choses. Ça devait valoir aujourd'hui peut-être 50 000 à 75 000 $, peut-être 10 fois plus. Alors, c'est en grande partie emprunté, cet argent-là. Puis cependant, malgré ce dénuement, mais sous l'impulsion de Don Vanier, le fondateur. Mais la fondation démarre de façon encourageante. Et les années 1912 et 1913 sont très pénibles, quand même. Toutefois, aucune des difficultés rencontrées ne devient surmontable. Mais en 1914, je vous préviens, l'élan qui avait été donné va être brusquement freiné. Le jeune monastère va connaître des événements qui le mettront à deux doigts de sa ruine. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Au début de 1914, Don Vanier présente au père Picard, prieur de Saint-Vendry, le bilan de la situation économique de Saint-Benoît-du-Lac. Il conclut par cette réflexion désabusée. Pas brillant, non, pas brillant, mais il nous est impossible de faire mieux. Je vous décris ça, c'est juste pour vous faire comprendre la misère. Il dit que l'excédent des dettes sur les profits s'élève à 2 000 $. Sans être catastrophique, c'est un déficit qui révèle une situation précaire. Le fondateur, bercé comme il l'est dans les questions d'administration, déjà été scellérier, je vous ai dit, ou économe, dans un monastère en France, mais il est, au Luxembourg, il est conscient plus que quiconque. Mais comment y remédier? Les sources de revenus sont peu nombreuses, alors il y a de l'imagination, ça prend de l'imagination si on veut fonder. Ça prend l'imagination si on veut être chrétien solide. Ça prend l'imagination si on veut être debout. Alors, il y a d'abord l'exploitation de la forêt. Dès son arrivée, le père Paul Vanier a remarqué que beaucoup de bois se perd. Alors, avec sa petite équipe de frères et d'employés, mais durant l'automne et l'hiver, même par des froids les plus rigoureux, comme un 11 février 1914, par moins 35 degrés centigrades, bien, il débite, lui, cet homme qui chante du grégorien, qui est un homme de culture universitaire, bien, il débite des arbres morts ou tombés pour en faire du bois de chauffage. Le 7 mars, il note que 156 cordes sont descendues au lac et attendent que leur acheteur, un marchand de Newport, semble-t-il, à l'autre bout du lac Memphrémagog, viennent en prendre livraison. Les activités agricoles, proprement dites, rapportent peu. Il faudrait accroître la superficie du sol cultivé, qui n'est que de 30 hectares. Mais ce serait au prix d'un travail d'épierrage. Oh, j'ai fait ça, moi, quand j'étais jeune moine, là-bas, en 1944-45. L'épierrage, c'est enlever les grosses pierres. C'est un dur travail au soleil, tout ça. Ce travail d'épierrage qui démoralise d'ailleurs les plus courageux. Je m'en souviens très bien. Car il faut compter enlever 100 tombereaux de pierres, parce que c'était très pierreux, ce terrain, là-bas. Il fallait récupérer un hectare de terre arable. Et pour combler ce malheur, la sécheresse sévit tout au long de l'été, de sorte que la récolte s'annonce désastreuse. Et là, le bâtiment de l'étable tombe en ruine, et son état d'insalubrité, mais ça fait craindre. Que l'inspecteur du gouvernement ne détecte des cas de tuberculose dans le troupeau de vaches laitières. Alors, il désespère de trouver des solutions à tous ces problèmes, le pauvre père Vanier. Et il songe sérieusement, en juin, à interrompre l'exploitation de la ferme, puis à la louer. Mais heureusement, si la ferme réserve au fondateur de Saint-Benoît-du-Lac des déconvenus, il y a l'installation d'une station expérimentale d'aviculture qui ouvre des perspectives intéressantes. Heureusement. Et il parvient à obtenir du gouvernement une station d'arboriculture fruitière aussi. Puis en avril, mai, juin, il y a les plantations qui se succèdent, les pommiers, qui sont toujours là, les pommiers. J'ai donc travaillé dans ces pommiers. Ça domine nettement par le nombre, mais une place est faite aussi aux pruniers, aux cerisiers, puis aux poiriers. Alors, comme il est spécialiste de la viticulture, dont Vanier s'empresse aussi de faire l'expérience des boutures de vignes. Puis en marge de ses activités agricoles conventionnelles, dont Vanier, qui travaille comme un trappiste, on pourrait dire, aidé de paroissiens bénévoles, organise le dimanche 16 août chez un monsieur Gosselin un bazar. Oui, un bazar en plein air, avec Rue de Fortune, un encan et même de la musique. Le concert à 15h, note-t-il, fut fort goûté et réussi, quoique improvisé. Et la recette de la journée, bien, c'est $200 net, ce qui est plus que vous en compense aujourd'hui. Et ça le surprend par son ampleur, et cet argent vient, heureusement, au secours de son petit budget. Mais ce bon montant pour l'époque là, ne modifie pas, évidemment, de façon très claire, la situation financière qui est difficile de Saint-Benoît-du-Lac, petit monastère naissant. Il faudrait investir pour créer des sources de revenus plus lucratives. Or, l'argent manque, au point qu'on a peine à éponger la dette. Alors, le père Vanier, il tente bien d'obtenir l'autorisation d'emprunter encore $2,000. Mais l'abbaye Saint-Vendry, cet accroissement de la dette paraît tout à fait inopportun. Le monastère de Saint-Benoît-du-Lac est en grave danger alors, acculé à une impasse financière, accusé de plus de pousser à la dépense, ce pauvre père Vanier, et de vouloir aller trop vite. Eh bien, le fondateur connaît alors une période d'abattement et même de découragement. La crise atteint son point culminant en juin 1914. Il écrit alors au père Picard, le prieur de Saint-Vendry, que si le père abbé de Saint-Vendry veut vraiment cette fondation, il doit la soutenir. Et il écrit, sinon, mieux vaut tout liquider tout de suite, sans nous laisser dans la peine, les difficultés et la misère, plus longtemps. S'il faut liquider ici, je ne demande pas mieux que de rester tout seul, en attendant la vente de la propriété. Voyez comme c'est rendu loin, hein? C'est tragique. Et déjà, en mai, son confrère, le père Boitard, qui était arrivé, qui l'épaulait, bénédictin, remarque, « Depuis quelques semaines, le père Vanier est plus sombre. Certainement, il n'est plus le même. » Et le père Boitard attribue ce marasme au surmenage et au souci d'administration. Et cependant, dans cette même lettre, où il envisage l'éventualité d'une liquidation du monastère, il ajoute, quelques lignes plus loin, « Pourtant, cette décision serait une grosse faute, car il y a certainement un avenir pour nous ici et ici même. La place est bonne et l'endroit bien choisi. » Mon Dieu, que l'endroit est bien choisi, vous le savez, vous qui connaissez Saint-Benoît-du-Lac. Hein? Alors tel est le drame du fondateur de Saint-Benoît-du-Lac, convaincu de la viabilité d'une fondation bénédictine en terre québécoise, il se voit dans l'impossibilité de la mener à bien faute de ressources humaines et matérielles suffisantes. Et pour la réalisation de ses projets de fondateur, Bendon Vanier compte beaucoup sur les frères Convert. Le Québec, qui est encore rural, profondément catholique, lui fournirait, ce qu'il pense du moins, ses auxiliaires indispensables pour assurer dans les plus brefs délais là, l'autonomie économique de la Fondation Saint-Benoît-du-Lac. La réalité lui réserve malheureusement une bien cuisante déception. Les Québécois sont relativement nombreux à s'annoncer, à se présenter, 5 en mars, 3 en juin, mais le taux de persévérance est malheureusement très faible. Notre mollesse devant la difficulté apparaît déjà. C'est triste, c'est pratiquement nul finalement. Même le frère Louis Prévost, le tout premier postulant qui faisait de si bonne impression, quitte après un an et demi. Le père Vanier s'en désole et à maintes reprises, il exprime sa désillusion en termes amers. Il dit, c'est une bonne demi-douzaine de postulants convert qu'il nous faudrait, et deux se présentent, mais je ne crois plus à rien. De sorte que je n'ai pas de déception, je perds tout espoir d'en avoir de sérieux ici. Les frères nous feront totalement défaut. On a 3 d'annoncés, mais je ne compte sur aucun d'eux. Et le 18 juin, il confie au père abbé de Saint-Vendré qu'il ne reste plus que 2 frères. Le frère Hilaire, qui va mourir très âgé en odeur de sainteté, et le frère Raphaël, qui sont surmenés, mais pleins de bonne volonté. Il n'est pas sans se demander pourquoi les postulants du pays du Québec ne persévèrent pas. L'esprit inconstant du Canadien, écrit-il, y est peut-être pour quelque chose. Mais la vraie raison réside dans le déséquilibre entre la charge de travail manuel puis les exercices proprement religieux. Le père Boitard déplore que le sort des frères soit pire que celui des garçons de ferme. Il n'y va pas de main morte, hein? Et on peut comprendre que les postulants n'ont pas les vertus héroïques du frère Hilaire, le frère Raphaël va quitter à son tour, ne se soient pas adaptés à un régime pareil, puis qu'ils aient cherché ailleurs une vie religieuse plus équilibrée. Quand j'ai connu le frère Hilaire, un regard de saint, des yeux bleus extraordinaires, il est mort très âgé, en voyant, croyait-il, la Sainte Vierge qui lui apparaissait. Pour pallier la pénurie de convers, eh bien, il reste l'alternative des employés laïcs, salariés. Le fondateur ne peut pas se dispenser d'y recourir, mais c'est à contre-cœur, et les salaires, d'après lui, sont excessifs. Il écrit des choses très drôles, puis le rendement, dit-il, est médiocre. Il écrit, en ce moment, il vous demande 2,50 $ par jour, nourris, couchés, et ne font que ce qu'ils veulent. Puis en désespoir de cause, il fait venir d'Angers, en France, le couple pèlerin, des gens sûrs et convenables, car impossible d'avoir le personnel stable et convenable ici, il faut voir cela pour s'en faire une idée. Tout cependant n'est que déboire au chapitre du personnel monastique. Le recrutement des pères de cœur sera certainement bien meilleur, et je le crois assuré, écrit-il. Mais comme la Fondation n'a pas encore le statut canonique requis, bien les postulants doivent aller faire leur noviciat où? Et leurs études où? En Europe. Et le jeune Louis Francaire, puis l'abbé Ménard, qui est entré, ils sont déjà en Europe. Et un troisième candidat s'apprête à les y rejoindre, et d'autres s'annoncent. Et le 1er août 1914, bien les journaux et la radio annoncent que la Première Guerre mondiale vient d'éclater. Là, le conflit va se prolonger, évidemment, jusqu'en 1918, comme vous savez. Ça va avoir des répercussions graves là, sur le petit monastère de Saint-Benoît-du-Lac, parce qu'en tant que Français, dont Paul Vanier et ses compagnons vont souffrir de l'agression puis de l'invasion de leur patrie, la France, par les troupes allemandes. Et puis de plus, c'est l'absence de nouvelles de leur famille, ça va les laisser dans une inquiétude mortelle. Ils ne sont pas davantage renseignés sur le sort de Saint-Vendry. L'abbé Saint-Vendry est descendu en France à Conques, dans le sud, car toute correspondance directe et régulière est désormais impossible. Et ce qu'ils apprennent par le journal La Croix, un petit entrefilet, le journal La Croix de Paris, diffuse une rumeur qui dit que les bénédictins de Conques auraient été faits prisonniers et amenés en Allemagne. Ils sont privés de l'assistance morale et matérielle de l'abbaye mère. Ils ne doivent plus compter que sur eux-mêmes. Et durant ces premiers jours de guerre, un événement inattendu, cependant, raffermir le courage et l'espoir. Et le 11 septembre, les deux moines prêtres que l'abbaye de Saint-Vendry avait promis d'envoyer, et bien que la guerre ait commencé, ce sont les pères Alix et Brun, on en parlait beaucoup à Saint-Benoît-du-Lac autrefois, annoncent leur arrivée. La joie et la surprise sont d'autant plus grandes qu'on ne les attendait plus. La guerre les aura empêchés de s'embarquer comme prévu le 21 août. Et ce renfort, commande Don Vanier, il écrit ça, c'est un encouragement et comme un signe de la protection divine sur l'œuvre entreprise. Alors, à Saint-Benoît-du-Lac, à cette époque, au début de la fondation, le nombre des moines passe donc de 4 à 6, 4 prêtres et 2 frères. Et ça permet d'assurer une vie communautaire plus normale. Des mesures concrètes qui doivent être prises, évidemment, quant aux locaux d'habitation, parce que déjà les moines sont à l'étroit, dans leur petite maison, qu'ils doivent d'ailleurs partager avec les domestiques imaginés. Il devient donc urgent de construire, et Don Vanier écrit, malgré notre indigence, cela s'impose, en vue de notre vie religieuse et pour nous séparer du personnel. Alors les travaux débutent le 5 octobre 1914. Ce nouveau bâtiment, ou plus exactement cette rallonge, et quelques dépendances au bout de la cuisine, seront terminés à la mi-décembre. Puis tout construit en bois. Après avoir espéré, comme tant d'autres, une victoire rapide des Alliés, puis le retour à la paix, Don Vanier note dans sa chronique l'esprit hanté de noirs pressentiments. Il écrit « La guerre continue, horrible et effrayante ». Et là, le lundi 30 novembre, c'est l'anniversaire aujourd'hui, le 30 novembre 1914. Don Vanier a résolu de se rendre à Sherbrooke et d'y participer avec l'ensemble du clergé diocésain à une fête, la fête qui marque le 21e anniversaire du sacre épiscopal de Mgr Larocque qui a été si bon pour lui. Alors il est levé tôt, comme d'habitude. Il a prié avec ses moines au cœur, il a prié avec eux, puis il a pris son déjeuner, au réfectoire, au petit réfectoire, puis il écrit 2 lettres. Et rapidement, il est descendu au lac à 7 heures le matin, avec le frère Charles Collot, afin de s'embarquer pour Magog et de là se rendre à Sherbrooke. Il fait froid ce matin de fin d'automne. Et bien rares sont les embarcations sur les eaux du lac. Et nos deux voyageurs, après une 20aine de minutes de navigation, sont presque parvenus à destination. Quand la terrible tragédie se produit. Il revient au père Alix, qui vient d'arriver, d'en avoir rédigé le récit, le plus circonstancié. Quelques jours plus tard, il écrit « L'embarcation, munie d'un excellent moteur, allait très vite quand, tout à coup, elle vint se heurter sur un glaçon trompeur qui surnageait à fleur d'eau. En quelques secondes, l'avant du frêle esquif coulait au fond du lac, après avoir été coupé littéralement par la glace. C'était la mort pour le père Vanier et son compagnon, le frère Collot. Un riverain, témoin du drame, se porta à leur secours, mais il ne put arriver à temps. Il était à 30 mètres des victimes lorsqu'il les vit disparaître. Le père et le jeune frère avaient bien essayé de nager pendant quelques brasses, mais le froid intense de l'eau les avait congestionnés et mis dans l'impossibilité de faire aucun mouvement. Cette fin tragique suscite une profonde émotion dans la région et tout particulièrement dans les milieux ecclésiastiques, dont Vanier, bien qu'arrivé depuis peu, s'était fait rapidement connaître par ses talents de prédicateur, son zèle, son esprit d'entreprise, son ardeur à promouvoir le développement du monastère bénédictin qu'il venait de fonder, Saint-Benoît-du-Lac. Il disparaissait à 54 ans, dans la force de l'âge. Sa santé avait toujours été excellente. Quelques rhumatismes aigus, à cause de son travail en forêt les hivers précédents. Sa vigueur physique et son tempérament hardi le rendaient cependant assez peu docile aux conseils de prudence. C'était un marcheur infatigable. Imaginez, il pouvait se rendre à pied à Magog, partant de Tempête sur le lac gelé, et en revenir le même jour. En mars 1913, l'année précédente de sa mort, il avait failli être englouti dans le lac avec son attelage quand une crevasse s'était ouverte sous son traîneau. à l'annonce de sa mort accidentelle, il y en a plusieurs qui ont attribué à son imprudence, voire à sa témérité, cette fin tragique. Or, le frère Charles Collot, mon compagnon d'infortune, avec 25 ans, était né à Paris, recruté pour la fondation par le père Vanier. Il était arrivé au Québec dès septembre 1912. Il y a déjà 2 ans qu'il était là. Le père Alix rapporte de lui que ce frère avait gardé une vivacité d'esprit, une finesse, qui en faisait un compagnon joyeux et bien agréable. Très bon mécanicien, d'une intelligence éveillée, il avait rendu de nombreux et importants services à la communauté de Saint-Benoît-du-Lac. Le corps du père Vanier fut retrouvé le jour même vers 15 heures. Celui du frère Charles Collot ne le sera que le printemps suivant. Et les funérailles eurent lieu le 2 décembre en l'église Saint-Patrice de Magog. Et Mgr Larocque de Sherbrooke tint à les présider. L'éloge funèbre fut prononcé par le curé de Stanstead. Et la mort si soudaine de Don Vanier va avoir de très lourdes conséquences pour la Fondation. Et il en était l'âme, depuis le début. Et tout pratiquement dépendait de lui. Ses confrères moines n'imaginaient évidemment pas qu'il les quitterait si tôt. Et leur désarroi était complet. D'autant plus qu'aucun d'eux n'avait l'expérience puis les aptitudes qui leur aient mis en mesure de succéder d'emblée au père Vanier. En outre, le fait que toute communication directe avec Saint-Vendré, l'abbaye-mère, était devenu impossible. Tout ça, ça rendait la situation encore plus désespérée. Tout concurait donc pour donner une résonance prophétique à ce que le fondateur de Saint-Benoît-du-Lac, Don Paul Vanier, écrivait au père Picard, prieur de Saint-Vendré, le 11 avril précédent. Écoutez bien, sachez bien que si l'œuvre réussit, nous n'y serons pour rien. Les difficultés sont trop grandes pour être humainement surmontées sans l'aide de Dieu. Il serait insensé de penser autrement. Connaissez-vous le début de la règle de Saint Benoît? Écoute, ô mon fils, les préceptes du Maître, et incline l'oreille de ton cœur. Le Maître, c'est Dieu. Reçois volontiers l'avertissement d'un père plein de tendresse et accomplis-le efficacement afin que le labeur de l'obéissance te ramène à celui dont t'avais éloigné la lâcheté de la désobéissance. À toi donc s'adresse en ce moment ma parole. Qui que tu sois, qui renonçant à tes propres volontés pour militer sous le vrai roi, le Seigneur Jésus-Christ, prend en main les puissantes et glorieuses armes de l'obéissance. C'est très beau la règle de Saint Benoît, et ça a formé des millions, je dis bien des millions et des millions de moines à travers les siècles. Depuis le 6e siècle, c'est vraiment extraordinaire quand on y pense. On peut rendre hommage à Don Paul Vanier, et je me permets de le prier, Père Paul Vanier, vous qui avez fondé Saint-Benoît-du-Lac, vous qui avez, vous êtes tant donné et qui êtes mort pour cette cause, veillez sur les moines de Saint-Benoît, veillez sur tous les oblats laïcs qui s'offrent au monastère par leur prière, leur vie. Veillez surtout à former dans le cœur de laïcs des vocations sérieuses, tant pour ce monastère que pour l'Église du Québec. Ô vous qui avez tant eu à cœur de fonder ce grand monastère pour que rayonne non seulement la pensée bénédictine, mais l'esprit même de la Sainte Église catholique. Amen.